Et maintenant, je vais vous présenter celui qui va parler ensuite. C'est le pasteur de cette église. Il est marié, il est père de 4 enfants. Ah. Voilà, ça sera plus confortable comme ça. Voilà, donc Pierre-Yves, il s'appelle Pierre-Yves. Il a passé plus de temps encore de sa vie comme athée et même comme athée militant. C'est lui qui le dit, hein, donc je peux le dire. Il a donc passé plus de temps comme athée que comme croyant. Mais un jour, Dieu a touché son cœur, il a placé sa foi en Jésus et cela lui a semblé tellement important qu'il est devenu pasteur. Alors c'est lui qui va nous parler maintenant.
Alors, quand Jean-Pierre dit que je suis pasteur, je ne sais pas pour vous, je vais prendre celui-là plutôt. Non. Mais il y a quelque temps, je suis allé m'inscrire à la médiathèque de Villefranche, et puis ils me demandent mon nom. D'ailleurs, ils n'étaient pas aussi souriants et gentils, donc je ne me suis pas dit c'est une secte, c'est bon. Ils me demandent mon nom, on va y aller, et puis ils me demandent ma profession, donc je dis ben, je suis pasteur, et puis là, il lève les yeux, il me regarde et il me fait mais vous gardez des moutons. Alors, je ne sais pas très bien ce que cette personne pensait de la foi ou de la religion, mais je vais prendre celui-là, excusez-moi. Voilà, je ne sais pas très bien ce qu'elle pensait de la foi ou de la religion, mais en tout cas, à ses yeux, tout du moins, je ne ressemblais pas à l'idée qu'elle se faisait d'un homme religieux qui croit en Jésus-Christ. Alors je me suis dit, après, peut-être que je ne ressemblais pas assez. Vous savez, dans la série La petite maison dans la prairie, il y a un pasteur, et puis il est toujours habillé en sombre, etc. Et je me dis, bon, peut-être que je ne ressemblais pas. Et en me voyant, il a dû se dire, lui, il doit garder des moutons. On a tous des idées préconçues sur la religion. Et régulièrement, il y a des sondages qui posent aux gens cette question, quelle est votre religion? Et puis, il semblerait qu'au fil des années, eh bien, le nombre de ceux qui se déclarent chrétiens se réduit sans cesse. Et puis, même dans les gens qui se réclament chrétiens ou qui vont à l'église, hein, eh bien, parfois, leurs motivations ne sont peut-être pas toujours claires. Alors voilà ce qu'a rapporté le journal gratuit Métro. Une petite anecdote que je vais vous lire maintenant. Un curé de Milan a découvert qu'un couple qui fréquentait assidûment son église n'était pas animé d'une ferveur religieuse particulièrement développée. Ils viennent pourtant chaque jour à la même heure et restent tête baissée, très recueillis, pendant un temps toujours identique. Installé près d'une grande croix en bois sur le mur. Le curé admire cette prière et cette persévérance jusqu'au jour où, désireux de repeindre les murs, il découvre courant le long du mur un fil électrique dissimulé à son extrémité par le pied de la croix. Et en fait, le couple venait chaque jour recharger son téléphone portable. Moi-même, pendant de nombreuses années, et Jean-Pierre se souvient bien, donc plus de la moitié de ma vie jusqu'à présent, j'ai éprouvé, c'est peu de le dire, des réticences par rapport à la foi, et en particulier par rapport à la foi chrétienne. Alors déjà, je partais mal parce que je ne croyais pas qu'il puisse exister un Dieu. C'était pour moi inconcevable. Et puis, lorsqu'on parlait du christianisme, j'avais en tête toutes les atrocités commises soi-disant au nom de Dieu. Les croisades, l'inquisition, les guerres de religion, et puis les massacres en tout genre. Et puis, ajouté à cela, moi j'écoute la radio, la télé, et régulièrement, on entend parler de scandales, de responsables religieux impliqués dans toutes sortes d'affaires sordides. Alors je me disais, bien malgré tout, que dans tout cela, il devait bien y avoir des gens sincères. Mais moi, de mon côté, je me demandais si la religion, en fait, n'était pas simplement une invention destinée, d'une part, à rassurer ceux qui avaient peur de la mort. Voilà, c'est bien, les gens, ils ont moins peur. Et puis aussi, je me demandais si ce n'était pas une invention qui était destinée à empêcher que les pauvres et les opprimés prennent les armes afin de réclamer justice par eux-mêmes. Alors moi, quand j'étais enfant, j'avais bien eu quelques cours de catéchisme, et puis de temps en temps, alors il m'arrivait d'aller à l'église, mais toujours pour accompagner les personnes, et notamment lors des mariages. Mais là, ce que j'entendais me laissait totalement indifférent. Alors, la personne de Jésus en elle-même me semblait malgré tout sympathique, en raison de son message d'amour, son message de justice. Mais moi, de mon côté, déjà, je n'étais pas sûr qu'il ait vraiment existé. Et puis, de toute manière, qu'est-ce qu'un homme qui avait vécu il y a près de 2000 ans et à près de 3000 kilomètres, pardon, de chez moi, en quoi pouvait-il être d'un quelconque intérêt pour ma vie? Et le christianisme me paraissait faux, mensonge, ennuyeux, et puis dépassé. En fait, je dois dire que je connaissais très peu de choses sur la foi et sur Dieu. Et puis, de toute manière, ça ne me préoccupait pas. Je faisais beaucoup de choses. Et puis, ma vie, on peut dire, était une course permanente. J'avais, je ne sais pas, vous avez peut-être aussi vous éprouvé ça, moi j'avais de mon côté un sentiment continu d'insatisfaction. Et j'y vais sans cesse dans l'attente d'autre chose, de la prochaine étape, la prochaine grande aventure, le prochain travail aussi, bon, après ce sera mieux, les prochaines vacances, ou des choses purement matérielles. Voilà, quand j'aurai tel ordinateur, voilà, là je serai content. Beaucoup de gens passent une grande partie de leur vie tournée vers l'étape suivante, la prochaine promotion, la prochaine relation, la prochaine situation. C'est curieux parce que pourtant notre expérience de la vie nous montre que même lorsque nous atteignons une nouvelle étape, au fond de nous-mêmes, nous ne sommes jamais totalement satisfaits. Il nous manque sans cesse quelque chose. C'est comme s'il y avait quelque chose en nous qui aspirait à quelque chose de plus, quelque chose enfin de satisfaisant. Sommes-nous toujours et pour jamais condamnés à chercher sans jamais trouver quelque chose qui pourrait enfin combler notre vie? Parce qu'au final, le sens de la vie, c'est quoi? Je vais aborder avec vous trois questions qui peuvent vous inspirer pour votre vie. Tout d'abord, comment choisir la bonne direction pour orienter sa vie? Comment avoir une vision claire dans un monde déboussolant? Comment profiter de la vie en toute liberté? Et pour cela, nous allons nous appuyer sur une parole de Jésus qui a dit, en parlant de lui-même, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors comment comprendre cette parole? Une jeune fille au père polonaise trouve les enfants dont elle est en train de s'occuper, en train de se battre. Et puis, ils sont au sol. Et puis là, bien sûr, elle se doit d'intervenir, mais elle ne maîtrise pas encore très bien la langue. Et puis, elle a envie de leur dire « Mais qu'est-ce que vous faites par terre ?» Et puis, elle se trompe, elle leur dit « Qu'est-ce que vous faites sur terre ?» La question est très pertinente. Que faisons-nous sur terre? Est-ce que notre vie a un but, a un sens? Que se passe-t-il lorsque nous mourons? D'où venons-nous et où allons-nous? Jésus nous dit « Je suis le chemin ». Et à travers cette parole, Jésus nous invite à prendre, c'est-à-dire la bonne direction, le bon chemin. Parce que, voyez-vous, la question qu'il faut se poser, ce n'est pas simplement de savoir si Dieu existe ou de savoir même ce qui se passe après la mort. La vraie question, Coluche l'a formulée ainsi, il disait, c'est assez négatif, mais il disait, mais y a-t-il une vie avant la mort ? Est-ce qu'on vit vraiment sur cette terre ? Et la question du christianisme, c'est, quel est le sens de ma vie ? Ma vie a-t-elle un sens ? En d'autres mots aussi, comment est-ce que je peux profiter de la meilleure manière possible du cadeau de la vie ? C'est pour cela qu'on propose un parcours alpha, afin de pouvoir, de manière détendue, explorer les grandes questions de notre vie. Et c'est important que chacun puisse explorer ces questions, parce qu'au final, c'est à chacun de nous, à chacun de vous, de décider l'orientation que va prendre sa vie. Ça appartient à chacun. C'est à personne d'autre de nous dire « mais ta vie va être ceci ou cela ». C'est à nous de prendre cette décision, et de savoir quelle direction nous prenons. On avance tellement parfois sans savoir où nous allons. Freddie Mercury, qui était le chanteur de Queen, était quelqu'un vraiment de... Voilà, il avait fait fortune, il était richissime, il avait des fans dans le monde entier, et pourtant, lors d'une interview qu'il a donnée peu de temps avant de mourir, il a dit ceci, il était totalement désespéré, voilà ce qu'il a dit, « On peut tout posséder et demeurer l'homme le plus seul sur la terre. C'est la plus cruelle des solitudes. La réussite a fait de moi une idole mondiale et m'a rapporté des millions, mais elle m'a privé de la relation dont nous avons tous besoin, une relation d'amour durable. » Tout le monde se pose la question, comment réussir ma vie ? Et on a des réponses différentes à cette question. Et souvent on tâtonne. Certains se disent, mais ce sont les plaisirs. Voilà, je vais me jeter à fond dans la recherche des plaisirs. Mais au bout d'un moment, ils finissent. Moi, ça a été mon style de vie pendant des années. On finit par réaliser que ça ne suffit pas à combler le vide qui est en nous. Pour d'autres, ça va être l'argent. Voilà, l'argent, ça, c'est la réponse. Mais là aussi, au bout du compte, ils se rendent compte que c'est insuffisant. Il manque toujours de l'argent pour être vraiment heureux. Il y en a qui se disent, alors, peut-être que le succès est la réponse. Et moi, je suis inquiet quand je vois toutes ces générations, ces jeunes générations. Moi, j'ai 4 enfants. Mais le modèle du bonheur, entre guillemets, qu'on leur propose, c'est la célébrité, devenir une star. Combien de personnes ont connu la célébrité et au bout du compte se disent « mais ce n'est pas ça la vie ». Pas plus que la vie de famille ou bien l'accumulation de toutes les connaissances du monde, pas plus que toutes ces choses, eh bien, rien de tout ça nous permet véritablement d'être pleinement satisfait. Pourtant, des millions de personnes sur la terre, d'hommes et de femmes, ont découvert que c'est seulement au travers de notre relation avec Dieu par Jésus-Christ que notre vie, enfin, prend tout son sens. Pourquoi est-ce que moi, Jésus, me passionne ? Certainement déjà parce que il m'a permis, il m'a fait découvrir pour réaliser pleinement ce que c'est d'être aimé, d'être totalement aimé et accepté par Dieu, la paix avec Dieu. Il m'a également permis d'être en paix avec moi-même. Il m'aide aussi à mieux comprendre et mieux aimer les autres. Et je peux vous dire que il est parti de loin. Faire la découverte d'une relation avec Dieu est quelque chose, moi, qui a transformé ma vie. Ça m'a porté enfin cette relation d'amour durable. Quelque chose que l'on a pour toujours. Eh bien, dans la vie de tous les jours, ça, je vous garantis que ça fait une énorme différence. Alors, bien sûr, on peut continuer sans Jésus, avancer sur le chemin de notre vie. On peut faire ça du mieux que nous pouvons. Et peut-être que vous vous dites, que Jésus ne peut rien vous apporter. Mais réalisez que, au cours de ces 3 années de vie sur la terre, simplement 3 années de sa vie, combien de vies dans le monde ont été totalement bouleversées par cela? Combien de gens peuvent dire maintenant, ma vie a totalement changé parce qu'un jour, Jésus est venu sur la terre. Jésus est le chemin. Deuxième question, comment avoir une vision claire dans un monde déboussolant? Alors, on entend parfois, enfin, moi je l'ai souvent entendu, je ne sais pas vous, hein, mais peu importe ce que l'on croit, à partir du moment où on est sincère, vous avez déjà entendu ça? Ah, ce qui compte, c'est de croire. Alors, on peut parfaitement se tromper en étant sincère. Des tas de gens sincères se trompent. Croire sincèrement en quelque chose ne suffit pas pour faire de cette chose quelque chose de vrai. Être sincère ne suffit pas à nous apporter la garantie que nous ne faisons pas fausse route dans notre vie et que nous ne courons pas tout droit à la catastrophe. Voilà une petite histoire qui est la transcription d'un échange radio entre un bateau de guerre américain et puis les autorités canadiennes au large de Terre-Neuve. Les Américains qui parlent et qui disent « Veuillez vous dérouter de 15 degrés nord pour éviter une collision. À vous. » Les Canadiens répondent, bien sûr. « Veuillez vous dérouter de 15 degrés sud pour éviter la collision. À vous. » Ça ne plaît pas aux Américains. Ici, le capitaine d'un navire des forces navales américaines. « Je répète, modifiez votre course à vous. » Les Canadiens, non. « Veuillez vous dérouter, je vous prie, à vous. » Ici, le porte-avions USS Lincoln. Nous sommes accompagnés par 3 destroyers, 3 croiseurs et un nombre important de navires d'escorte. Je vous demande de dévier de votre route de 15 degrés nord où des mesures contraignantes vont être prises pour assurer la sécurité de notre navire. À vous. Et les Canadiens répondent, oui, mais nous sommes un phare. À vous. Nous pouvons être sincères et pourtant nous pouvons nous tromper. Hitler était sincère. Et il a commis le mal avec beaucoup de sincérité. Et bien, ce sont ses convictions qui l'ont porté au mal et qui ont coûté la vie à des millions de personnes. Alors bien sûr, c'est un cas extrême, mais ça nous montre que ce que nous croyons, ce que nous croyons profondément, est de première importance pour la manière dont nous allons orienter notre vie. Ce que nous croyons va dicter notre conduite. Autre chose qu'on entend parfois, alors moi ça je l'ai entendu depuis que je suis chrétien, c'est « si la foi te fait du bien, tant mieux pour toi ». Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Quand c'est des plus jeunes, c'est plutôt « moi c'est pas mon truc ». Ouais, c'est le tien, tant mieux, mais pas le mien. Mais il y a quelque chose qui est totalement illogique derrière ça. Parce que si jamais la foi en Jésus est vraie, alors c'est vrai pour tout le monde. Mais si ce n'est pas vrai, si c'est une illusion, alors c'est faux pour moi comme pour les autres. Dans ces cas-là même, nous perdons totalement notre temps ce soir. Alors, il y a maintenant, je suis en train de chercher déjà en quelle année, il y a plus d'une 20aine d'années, moi j'avais l'absolue conviction que Dieu n'existait pas. Et j'aimais bien me confronter avec ceux qui avaient des positions inverses. Mais pour moi, Dieu n'existait pas, c'était évident. Et si on croyait l'inverse, c'est qu'on était faible ou bête. Et puis, je me suis lié d'amitié avec des personnes et elles étaient chrétiennes et moi je ne le savais pas. Je me serais peut-être méfié au départ, hein, j'avais beaucoup de préjugés. Et je me suis lié avec ces personnes, c'était vraiment des gens très sympathiques. Et puis un jour, donc, j'ai découvert qu'elles, elles avaient la conviction inverse de la mienne. Elles avaient la conviction que Dieu existait, et même, chose très curieuse pour moi à l'époque, elles avaient même la conviction qu'elles vivaient une relation personnelle avec Dieu. Et ça, chez moi, c'était un déclic, parce que ça signifiait qu'il y avait forcément l'un de nous qui se trompait. C'est la première fois de ma vie que je me suis dit, par rapport à l'existence de Dieu, et si jamais c'était moi qui me trompais? Et si jamais Dieu existait? Il est important de nous poser cette question, mais encore plus de chercher la réponse. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il est vrai que Dieu existe? Puisque des tas de gens le disent. Qu'est-ce qui est vrai? Jésus dit « Je suis la vérité ». Par rapport à ça, il va nous falloir trancher. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ou bien le christianisme est faux et sans aucune importance, ou bien c'est vrai et là, c'est quelque chose d'important. En tout cas, ça ne peut pas être moyennement important. Du style, c'est important pour toi, mais ça ne l'est pas pour moi. Il y a de très nombreuses pièces à conviction qui établissent fermement le fondement du christianisme. Alors, c'est quelque chose qui sera vu, si jamais vous souhaitiez revenir, c'est quelque chose qui sera examiné en détail la prochaine fois. Les éléments historiques de la vie de Jésus, sa mort et puis sa résurrection. Donc voilà, si vous êtes sceptique ou si vous aimez, si vous êtes plein de questions, bien voilà, ce sera l'occasion pour vous en tout cas d'alimenter vos réflexions. Il y a beaucoup de gens qui, par leur profession, sont habitués à examiner des faits. Et ces gens sont pourtant arrivés à la conclusion que le christianisme est historiquement fondé. La plupart des fondateurs de la science moderne étaient chrétiens. Descartes, Newton, Copernic, Ampère, Edison, un grand nombre de magistrats, de juristes, d'historiens éminents professent également la foi chrétienne. Et pourtant, ces gens sont habitués à examiner les diverses pièces qu'on leur fournit, tous les éléments historiques qu'on peut avoir. Et pourtant, ils sont arrivés à la conclusion que Jésus a existé. Cependant, donc, c'est bien déjà d'avoir cette conviction, est-ce que Jésus a existé? Mais lorsque Jésus dit « Je suis la vérité », c'est pas seulement une vérité intellectuelle, c'est aussi une expérience. Vous le savez, donc je suis marié. Alors, essayez d'imaginer un peu qu'avant de rencontrer mon épouse, elle s'appelle Cathy, j'ai trouvé dans une librairie un livre qui parle d'elle. Je vois la couverture, tiens, intéressant. Et je lis, en fait, de quoi parle ce livre. Alors déjà le titre, Cathy, portrait d'une femme exceptionnelle. C'est mon épouse. Oh, intéressant. Chapitre 1, une personnalité forte et ouverte. Ceux qui la connaissent, vous êtes d'accord avec moi. Chapitre 2, une vive intelligence. Chapitre 3, un amour sincère et engagé. Chapitre 4, une princesse à délivrer. Ça, c'est intriguant, mais ça, c'est entre elle et moi. Chapitre 5, une beauté éternelle. Là, je me serais dit, waouh, ça, c'est une femme exceptionnelle. Mais si j'en étais resté simplement à la lecture de ce livre, ma connaissance d'elle n'aurait été que malgré tout superficielle, intellectuelle. Eh bien, après 16 ans de mariage, je sais maintenant, au fond de moi, que c'est vraiment une femme exceptionnelle. Pas simplement parce que j'aurais pu l'entendre de d'autres, mais parce que moi je la connais, jour après jour, de mieux en mieux, je sais que c'est une femme exceptionnelle. Parce que je l'ai rencontrée, et parce que j'en ai fait l'expérience. Jésus est la vérité, ce n'est pas simplement quelque chose qui touche notre intellect, ce n'est pas simplement une vérité intellectuelle, pas simplement quelque chose d'historique, c'est quelque chose de plus profond qui passe par une rencontre. Parce que le christianisme ne se pose pas comme étant une philosophie, une série de règles ou de rites, mais il s'agit avant tout d'une rencontre, d'une présence, une amitié, une relation personnelle avec Jésus ressuscité. Et il y a vraiment une grande différence entre une connaissance intellectuelle et une expérience personnelle. Eh bien, beaucoup de personnes ont fait et font encore l'expérience de cette rencontre avec Jésus. Et cela a transformé leur vie. La vie, la véritable vie. C'est ça qui nous est accordé par Dieu au travers de notre rencontre avec Jésus-Christ. Jésus a dit également, « Je suis la vie ». Jésus est celui qui apporte la vie dans ce monde de ténèbres. Vous ne trouvez pas des fois que le monde dans lequel on vit, mais c'est triste à en pleurer des fois. Nous vivons sur une planète que Dieu a voulu grande et belle, avec suffisamment de place et de bonnes choses pour tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Les hommes se tuent les uns les autres. Pauvreté, malheur en tout genre. Jésus est celui qui vient porter la vie dans un monde de ténèbres. Et il est en particulier venu nous libérer du mal qui abîme notre existence. Alors il faut distinguer le mal et les erreurs. Parce que nous commettons tous des erreurs. Alors, certaines erreurs sont inoffensives. Voici quelques-unes qui ont été relevées dans des copies de collégiens. Et ce n'est pas ça que Jésus est venu corriger. Sur des collégiens qui étaient interrogés sur Napoléon, et puis Napoléon c'est quelqu'un qui avait une grosse capacité intellectuelle, et puis entre autres, il avait dû dire ça, Napoléon était capable de dicter 5 lettres à la fois, et donc sa conclusion, c'était un très grand dictateur. Également ceci, j'espère que vous allez vous sentir concerné, en sciences naturelles, le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a un. Certaines erreurs sont sans conséquence et elles font même sourire. Mais certains aspects de notre vie, eh bien en tout cas dans ma vie, sont néfastes et destructeurs. Le bien et le mal cohabitent en chacun de nous. Solzhenitsyn, l'écrivain russe qui avait reçu le prix Nobel de la paix, l'avait exprimé ainsi. La ligne qui sépare le bien du mal ne se passe pas entre les États, ni entre les classes sociales, ni au niveau des partis politiques, mais au travers du cœur humain, de chaque cœur humain. S'il y a tant de mal, c'est parce que, malheureusement, nos cœurs sont parfois sensibles au mal et y cèdent. Je pense que nous avons tous fait cette expérience-là. Eh bien, Jésus est venu nous libérer de cette part négative de nous-mêmes, nous libérer de nos addictions, de ces zones d'ombre de notre vie que nous connaissons trop bien, même si des fois nous essayons de les cacher, et dont nous aimerions être débarrassés. Et des fois, des choses, on aimerait tellement s'en débarrasser. Mais tout seul, on n'y arrive pas. Jésus est également venu nous rendre libres de changer. Nous avons toute notre vie la possibilité de changer. Ça, c'est une nouvelle extraordinaire. Nous pouvons être changés et devenir la personne bonne, aimante, juste qu'au fond de nous-mêmes, nous aspirons d'être. Jésus est également venu nous libérer de la peur de la mort. Voilà, devant lui, la mort a perdu son pouvoir. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le monde dans lequel nous vivons et notre propre vie peuvent nous sembler parfois totalement incompréhensibles et n'avoir aucun sens. Moi, je n'ai pas de décodeur, Canal+ chez moi. Mais des fois, voilà, j'ai la télécommande, et puis, ben, à un moment, j'arrive sur la chaîne cryptée, et puis, ben, bien sûr, je comprends rien de ce qui se passe. On voit bien qu'il se passe des choses, mais c'est incompréhensible. Eh bien, parfois, c'est un peu la même chose dans notre vie. Il se passe des choses, mais on n'arrive pas à bien comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Pourquoi je ressens telle et telle chose ? Qu'y a-t-il ? Eh bien, Jésus vient à notre rencontre pour nous aider à y voir clair dans notre vie. Et lorsqu'il transforme notre vie prend soudain son sens. Moi, je crois que le christianisme est vrai parce qu'il se fonde sur une rencontre personnelle avec Jésus. Et tous ceux qui ont fait cette rencontre ont cette même conviction. Je crois que le christianisme n'est pas dépassé parce que moi, cette expérience d'une rencontre personnelle avec Jésus est quelque chose qui a transformé ma vie, qui m'a donné enfin la capacité d'aimer. Et un amour qui ne se traduit pas simplement en mots ou en actes. Et je vois que le Seigneur continue à travailler mon cœur dans ce sens. Et c'est quelque chose qui me réjouit. Je crois que le christianisme aussi n'est pas ennuyeux, parce que ben, quand on a cette relation personnelle avec Dieu, il se passe des choses extraordinaires. Ça, c'est la vie. Une vie qui nous surprend, qui nous dépasse. Des fois, on aimerait contrôler toute notre vie. Avec Dieu, c'est différent. C'est lui qui prend le contrôle et qui nous conduit dans des situations, des fois, que nous n'aurions pas imaginées, soupçonnées. La vraie vie. Ma question pour vous, c'est, et vous, qu'allez-vous choisir ? Explorer le sens de la vie ou bien rester sur ce que vous croyez savoir aujourd'hui ? Et là, le choix vous appartient. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, mais il s'agit de votre vie. Une vie que personne d'autre que vous ne vivra à votre place. Alors, je ne sais pas comment, moi j'ai beaucoup parlé, je ne sais pas comment vous avez réagi ou comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre. Alors, il y en a peut-être qui se disent déjà, voilà, moi j'ai déjà une relation avec Dieu par Jésus-Christ. Eh bien, si c'est ce que vous dites, tant mieux. Et c'est l'essentiel. D'autres, peut-être, peuvent sourire. Moi, si j'avais été à votre place, je serais soit souriant, soit grimaçant en ce moment. Enfin, si j'avais été à votre place, pas ce soir, hein, mais il y a 20 ans. Moi, je peux comprendre ça, parce que moi-même, c'est comme ça que je vivais les choses pendant des années. Et peut-être que, tout simplement, le moment pour vous n'est pas encore venu. Mais il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent se dire « Moi, je ne suis pas convaincue, mais j'aimerais bien en savoir plus. » Eh bien, si jamais c'est votre cas, je vous encourage vraiment, vivement, à ne pas en rester là, mais à chercher à en savoir plus. Alors nous, ce que nous vous proposons, c'est d'assister à l'ensemble du parcours. L'ensemble du parcours Alpha qui aura lieu ici. Donc, tout à l'heure, on vous en parlera un petit peu. Et sachez vraiment que c'est quelque chose qui existe en France dans des centaines d'endroits différents. Voilà, c'est pas juste une invention de notre cru, mais c'est quelque chose qui existe dans divers milieux. Alors, bien sûr, hein, y a plein d'autres moyens d'aller plus loin. Mais en tout cas, voilà, sachez que celui-ci existe. C'est ce que nous vous proposons. Et si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien, nous allons vous accueillir avec beaucoup de joie. Il y a peut-être aussi ce soir des personnes qui là sont touchées et qui se disent mais c'est la première fois que j'entends ça, que j'entends parler de cette relation possible avec Dieu par Jésus-Christ. J'aimerais bien pouvoir connaître ça, vivre ça, avoir moi-même cette relation avec Dieu. Eh bien, c'est quelque chose que vous pouvez vivre dès à présent. Ici et maintenant. Alors, comment parler à Dieu ? Alors, c'est simple et je vous propose trois mots usuels qui sont ce que, en tant que parent, en tout cas moi avec mes enfants, quelque chose que j'essaye de leur inculquer dans toute chose, cette notion de demander pardon, dire merci, et puis dire s'il te plaît. Parce que dans la Bible, Dieu se présente comme un père. Et le type de relation qu'il veut pouvoir instaurer entre lui et nous, c'est cette relation d'enfant à père. Tout d'abord, vous pouvez demander pardon à Dieu pour les choses dont vous êtes consciente que vous avez fait, qui iraient contre lui, le mal que vous avez pu commettre dans votre vie. Puis, remerciez. Remerciez Jésus d'être mort pour vous et ainsi de mettre votre confiance en lui. Et enfin, de lui dire, lui demander, s'il te plaît Seigneur, viens vivre dans mon cœur par ton Saint-Esprit. Alors, je voudrais simplement donner à chacun la possibilité de faire une prière sincère, mais personne n'y est obligé. Et comme je ne voudrais que personne soit mal à l'aise, et peut-être que vous l'êtes, voilà, je vous demanderais simplement d'incliner votre tête. Donc je demande pardon aux personnes qui pourraient être choquées par ça. Mais je voudrais simplement offrir l'opportunité aux personnes qui souhaiteraient le faire, de le faire. Et puis de prier avec moi, de vous joindre à cette prière. Seigneur Jésus, toi tu es présent ici, parmi nous ce soir. Merci car tu es le Dieu présent partout. Et bien Seigneur, je te demande pardon pour ma vie que j'ai tendance à vivre sans toi. Pardon pour les choses où j'ai pu me détourner de toi, pour le mal que j'ai commis. Mais je veux te remercier parce que tu es venu à ma rencontre, tu m'as tendu la main. Et en mourant à ta place, à ma place sur une croix, tu m'as offert ta vie. Et je veux t'en remercier. S'il te plaît, Seigneur, viens vivre dans mon cœur. Sois le maître de ma vie et conduis-moi. Amen. Merci au Seigneur pour ceux qui ont fait cette prière. Et merci pour votre écoute patiente.